De même, le Saint-Esprit, lors de son effusion le jour de la Pentecôte, était réellement quelque chose de nouveau. Sous l'ancienne alliance, il avait toujours été appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel. Il ne portait pas alors le nom de Saint-Esprit, comme un nom lui étant propre. Ce n'est que lorsqu'il devint préparer la voie pour Christ et lui former un corps que ce nom lui fut donné, Luc 1:15-35. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fut envoyé comme l'Esprit de Jésus glorifié, l'Esprit du Christ incarné, crucifié et élevé au ciel, pour nous apporter et nous communiquer la vie divine, non une vie venant directement de Dieu, mais la vie mêlée de nature humaine, dont avait vécu Jésus-Christ sur la terre. C'est alors qu'il prend le nom de Saint-Esprit, car c'est en habitant en nous que Dieu nous révèle sa sainteté. Il est donc littéralement vrai de dire de l'Esprit, qui demeurait en Jésus homme, et qui devait plus tard demeurer en nous, le Saint-Esprit n'était pas encore. L'Esprit de Jésus glorifié, du Fils de l'homme devenu Fils de Dieu, ne pouvait pas exister avant que Jésus eût été glorifié. Ceci nous explique en outre pourquoi c'est l'Esprit de Jésus, et non directement l'Esprit de Dieu, qui pouvait nous être envoyé pour demeurer en nous. Le péché avait interrompu, troublé nos rapports avec Dieu lui-même, autant qu'avec sa loi et avec la faveur divine nous avions perdu la vie divine. Christ est venu non seulement affranchir l'homme de la loi et de la malédiction de la loi, mais ramener la nature humaine à Dieu, rétablir notre communion avec lui et nous faire participer de la nature divine, de Pierre 1, 4. Pour cela Christ, devenu lui-même chair, devait sanctifier la chair en sa propre personne et l'amener à devenir volontairement l'habitation de l'Esprit de Dieu. Après avoir fait cela, et conformément à la règle qui veut que les formes les plus infimes de la vie ne puissent s'élever à un degré supérieur, qu'en passant par la mort, il devait lui-même passer par la mort, soit pour subir la malédiction du péché, soit pour être le grain de froment qui, s'il meurt, porte beaucoup de fruits, Jean 12, 24. À présent sa nature glorifiée lors de sa résurrection et de son ascension, nous envoie son esprit, l'esprit de sa vie humaine glorifiée par son union avec Dieu, et par là il nous rend participants de tout ce qu'il avait, individuellement acquis, c'est-à-dire de lui-même, et de sa vie glorifiée. L'expiation confère à l'homme le droit d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus, après avoir revêtu lui-même une nature humaine nouvelle et sainte, peut à présent nous communiquer ce qui avait été jusqu'alors inconnu, une vie à la fois humaine et divine. C'est ainsi que l'Esprit, qui est la vie individuelle de Dieu, a pu devenir aussi la vie individuelle de l'homme. Et c'est parce que l'Esprit est le principe vital de Dieu lui-même qu'il peut être aussi le principe vital de l'enfant de Dieu. L'Esprit du Fils de Dieu est ainsi en nous l'Esprit qui crie Abba, Père. C'est de cet Esprit-là qu'il est parfaitement vrai de dire le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais à présent, Dieu soit loué. Jésus a été glorifié. La glorification de Jésus et l'effusion de son Esprit sont intimement, inséparablement liées l'une à l'autre. Si nous voulons recevoir, non seulement l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Christ glorifié, cet Esprit qui n'était pas encore, mais qui est à présent une réalité, c'est à Jésus glorifié que nous devons nous adresser avec foi. Le Saint-Esprit peut nous donner tout ce que nous voulons recevoir, tout ce que nous voulons posséder de la vie de notre Seigneur glorifié. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit comme une personne pour demeurer en nous. C'est là le fruit de l'œuvre de Jésus, nous avons, sur la terre, la présence personnelle du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, seconde personne de la Trinité, le Fils est venu révéler le Père, qui demeurait et parlait en lui, de même l'Esprit, troisième personne de la Trinité, vient à présent révéler le Fils et par lui le Fils vient habiter et agir en nous. La gloire dont le Père a glorifié le Fils de l'homme, parce que le Fils l'avait glorifié, est donc celle-ci en son nom, et par son moyen le Saint-Esprit, vient habiter personnellement dans le croyant, et réaliser en lui la présence de Jésus. Voilà ce que signifient ces mots de Jésus: celui qui croit en moi n'aura jamais soif, mais des fleuves d'eau vive couleront de lui, Jean 6, 35, 7, 37. L'habitation du Saint-Esprit, en nous vient nous révéler la présence de Jésus, glorifié. Voilà ce qui seul, peut étancher la soif de notre âme, et faire jaillir en nous une source de vie qui ayant vivifié d'autres encore. Amen. Dans la vie de Jésus, l'humble état de serviteur a précédé l'état de gloire et de roi. Ce fut sa fidélité à remplir ce premier office qui le conduisit à la gloire. Que tout croyant désireux de partager la gloire de Christ commence par suivre son exemple, qu'il renonce à soi-même et l'Esprit viendra au moment voulu révéler en lui la gloire divine. La gloire de Christ fut le fruit de sa mort sur la croix. C'est en prenant part moi-même à cette mort de la croix, crucifixion de Christ pour moi et crucifixion de mon moi avec Christ, que je serai préparé à recevoir l'Esprit chargé de me révéler le Christ glorifié. Le Saint-Esprit en l'homme. Je prierai mon Père qui vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14, 16, 17, il sera en vous. Par ces quatre mots, notre Seigneur prédit l'habitation de l'Esprit Saint en l'homme, ce mystère insondable, qui devait être le fruit et le couronnement de son œuvre de rédemption. C'était pour cela que l'homme avait été créé. C'était pour cela que Jésus vivait sur la terre et qu'il allait mourir. Sans cette habitation de l'Esprit en l'homme, le but du Père n'aurait pas été atteint, et si la parole de Jésus à ses disciples avait produit jusque-là si peu de fruits, il faut l'attribuer à ce que l'Esprit n'habitait pas encore en eux. Notre Père s'est révélé à nous de deux manières, par son Fils et par son Esprit. Jusqu'à la Pentecôte, l'homme n'était pas encore devenu la demeure de Dieu par l'Esprit. À présent, l'Esprit Saint doit être pour nous ce qu'il est, pour le Père et pour le Fils la source, le principe de notre individualité. Il doit réellement être un avec nous, et par cette union intrinsèque demeurer en nous tout aussi intimement que le Père demeure dans le Fils et le Fils dans le Père. Avec un saint respect, prosternons-nous, adorons et recevons cette grâce insigne. Si nous voulons posséder pleinement ce que nous promet là notre Seigneur, souvenons-nous que par l'Esprit c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. C'est donc avant tout par la foi qu'il faut saisir la présence du Saint-Esprit en nous. Lors même que je n'aurai pas la moindre preuve de son action, je dois croire avec respect qu'il demeure en moi. Avec foi, je dois compter sur ses effets et les attendre dans le recueillement. Avec foi aussi, je dois renoncer entièrement à toute sagesse, à toute force propre, renoncer complètement à moi-même pour le laisser agir en maître. La foi nous doue de la faculté de reconnaître ce qui est divin, sous les apparences les plus trompeuses. Si elle peut nous rendre réelle l'existence du Père dans sa gloire et celle du Fils qui est Dieu manifesté en chair, la foi nous rend aussi réelle la présence invisible du Saint-Esprit en nous. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Et quand il écrit aux Galates rétrogrades, Paul leur rappelle qu'ils avaient reçu l'Esprit, par la prédication de la foi, que Dieu avait envoyé dans leur cœur l'Esprit de son Fils, Galates 3, 2, 4, 6, qu'ils avaient par la même la vie de l'Esprit en eux, qu'il suffisait donc de le reconnaître et de le croire pour pouvoir aussi marcher, selon l'Esprit. Galates 5, 16. Voilà ce que de nos jours encore l'Église de Christ a besoin d'apprendre. Consentons enfin à reconnaître cette vérité. À mesure qu'elle s'imposera davantage à nous comme vérité divine, à mesure qu'avec humilité et renoncement à nous-mêmes, qu'avec foi et adoration nous croirons plus pratiquement à cette promesse « Il sera en vous », nous verrons le Père l'accomplir avec joie, en nous pour l'amour de Jésus. Alors nous serons, nous éprouverons, nous aussi, que c'est la présence de l'Esprit Saint, qui est la force et la vie de tout vrai disciple. Seigneur Jésus, mon âme te bénit pour cette parole, précieuse entre toutes l'Esprit sera en vous. Avec humilité je l'écoute, je la reçois tout de nouveau, et je te prie de m'enseigner tout ce qu'elle signifie. Je te demande, et pour moi, et pour tous les enfants de Dieu, de nous faire mieux comprendre ce que ton amour veut pour nous, de nous faire bien saisir que tu veux te donner si complètement à nous que rien ne saurait te satisfaire mieux que de faire ta demeure en nous, d'être ainsi la vie même de notre vie. Et c'est pour le faire que tu as envoyé ton Saint-Esprit dans notre cœur, le chargeant de nous révéler ta présence, de manifester en nous la puissance de ta vie. Ô divin Sauveur, amène ton Église à saisir cette vérité, si longtemps négligée et perdue, à en éprouver le bienfait, à en rendre hautement témoignage. Oui, que partout se répande cette joyeuse nouvelle l'Esprit, demeurant tout vrai croyant, pour l'éclairer et le conduire. Amen. Jésus-Christ venu en chair 1 Jean 4, 2. La parole faite chair. Jean 1, 14. Le Fils de Dieu revêtu de notre nature humaine. Quel mystère! Mais qu'il est grand aussi, cet autre mystère, l'Esprit de Dieu venant demeurer dans une chair de péché Romains 8, 3. Heureux ceux à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère. Christ en vous? Colossiens 1, 27. Au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Tout au fond de vous. Voilà ce que nous a promis le Seigneur. Grâce à Dieu, son Saint-Esprit demeure au-dedans de moi. Quand on entre dans un temple, on éprouve un sentiment de respect et de vénération. Que ce soit là aussi ce que j'éprouve à la pensée que le Saint-Esprit fait de moi son temple. Respect et vénération en sa sainte présence. Qu'il demeure avec vous, il sera en vous. Saisissez bien ces deux promesses, la continuité de la présence de l'Esprit avec l'Église, l'intimité de sa présence dans chaque croyant. L'Esprit donné à celui qui obéit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père, qui vous donnera un autre consolateur, savoir l'Esprit de vérité. Jean 14, 15, 16, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32, ces paroles ne sauraient trop fixer notre attention. Soit dans le paradis, soit pour les anges du ciel, soit même aussi pour le Fils de Dieu, ce n'est que par l'obéissance nos rapports avec Dieu peuvent subsister, qu'il peut se révéler à nous et nous préparer pour la gloire. N'en fut-il pas ainsi du Fils de Dieu? C'est après 30 ans de sainte humilité et d'obéissance, c'est après avoir témoigné de sa consécration, par ces mots il convient d'accomplir tout ce qui est juste, Matthieu 5, 15, et s'être présenté au baptême, pour les péchés de son peuple, qu'il fut baptisé du Saint-Esprit. C'est à cause de son obéissance que l'Esprit descendit sur lui. Et plus tard, c'est après avoir appris l'obéissance dans la souffrance, après s'être rendu obéissant, jusqu'à la mort de la croix, Philippiens 2, 8, qu'il reçut de nouveau du Père le Saint-Esprit, pour le répandre sur ses disciples. Acte 2, 33. L'envoi de l'Esprit à l'Église, son corps, fut donc le résultat de son obéissance. La règle imposée à Christ, la tête, est toujours la même pour chacun des membres de son corps. L'obéissance est la condition indispensable à l'habitation de l'Esprit en nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et le Père vous donnera l'Esprit. La venue de Jésus-Christ en chair préparait sa venue en esprit, et celle-ci devait accomplir sa promesse « Je demeurerai en vous ». Jean 15, 4. L'attachement des disciples à leur maître devait les préparer à recevoir le baptême de l'Esprit. De même à présent, ce n'est que quand nous écoutons la voix de la conscience, cherchant à observer avec amour ce que Jésus nous prescrit, que notre cœur se trouve préparé à être rempli de l'Esprit. On s'imagine souvent ne pouvoir obéir qu'après avoir été rempli de l'Esprit, ne discernant pas que l'obéissance est au contraire l'étage inférieur, par lequel il faut passer pour monter plus haut encore, et que le baptême de l'Esprit nous apporte l'habitation, en nous de notre Seigneur glorifié, qu'il est la présence même de Christ promise à ceux qui obéissent. On ne voit pas que l'obéissance à la voix de la conscience et à chacun des commandements de l'Écriture est le passeport nécessaire pour entrer dans cette vie de l'Esprit qui témoigne de la présence du Seigneur? Celui qui obéit peut et doit s'attendre à être rempli de l'Esprit. On ne comprend pas toujours que la vie de Jésus est le modèle de ce que doit être la nôtre. Quel exemple nous avons là de l'obéissance et des épreuves qui précèdent la glorieuse puissance de la vie de l'Esprit? C'est cette vie-là que nous communique l'Esprit de Jésus glorifié, mais pour avoir part au don de l'Esprit, il faut suivre la voie que Christ nous a tracée par son exemple. C'est en crucifiant la chair, c'est en nous soumettant, sans réserve à la volonté de Dieu, que nous nous convaincrons de l'impossibilité de trouver Dieu en dehors de sa volonté. Le cœur qui accepte et fait la volonté de Dieu en Christ devient la demeure du Saint-Esprit. C'est à la condition d'une parfaite obéissance que le Fils recevait l'Esprit, de même pour nous. C'est quand nous obéissons au Fils avec amour et déférence que l'Esprit vient demeurer en nous. Cette vérité-là s'est imposée avec force au cœur d'un grand nombre de croyants ces dernières années, sous le nom de renoncement au moyen d'entière consécration. Seigneur Jésus, de tout mon cœur je reçois ce que tu m'enseignes là, et je te prie de graver profondément dans mon cœur que l'obéissance de l'amour m'assure la puissance de l'Esprit. Mon Sauveur, de tout mon cœur je te dis je t'aime et je voudrais observer chacun de tes commandements. De nouveau je m'abandonne à toi. Tu vois qu'au fond de mon cœur tout mon désir est de faire ta volonté, comme on l'a fait au ciel. Amen. Quand Dieu commanda à Israël de lui faire un sanctuaire, pour qu'il pût habiter au milieu d'eux, il dit à Moïse « Vous ferez le tabernacle, et tous ses ustensiles d'après le modèle, que je vais te montrer. » Exode 25, 8, 9. Et dans les derniers chapitres de l'Exode, il est répété 18 fois que tout avait été fait comme l'Éternel l'avait commandé. Ce fut cette demeure-là, bâtie d'après le modèle qu'il avait donné, et qui était la parfaite expression de sa volonté, que Dieu vint habiter. C'est donc la volonté de Dieu exécutée par l'homme qui prépare une demeure à Dieu. Il vint habiter dans le cœur obéissant de son enfant. Ce n'est que lorsque la volonté de Dieu devient notre seule règle de conduite et que le Saint-Esprit grave dans notre cœur les commandements de Dieu que la gloire du Seigneur peut remplir son temple. Connaître l'Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Dans la vie de la foi, on ne saurait attacher trop de prix à la véritable connaissance spirituelle. Un homme qui fait un héritage ou qui possède un trésor dans son champ n'en est pas plus riche jusqu'à ce qu'il en soit informé, qu'il sache en prendre possession et en user. De même, les dons de la grâce de Dieu ne peuvent devenir une bénédiction pour nous que lorsque nous en avons connaissance et que nous nous en saisissons. En Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, Colossiens 2, 3 et 7. Pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, que le croyant regarde toutes les autres choses comme une perte, Philippiens 3, 8. C'est souvent faute de connaître ces trésors que la vie du croyant conserve un niveau si peu élevé. Aussi ne saurions-nous trop demander que le Père de gloire nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens 1, 17, 18. Oh. Qu'il nous est nécessaire de connaître tout d'abord celui qui doit nous initier à toute vraie connaissance. Notre Père donne à chacun de ses enfants, non seulement Christ qui est la vérité, la réalité de toute vie et toute grâce divine, mais encore le Saint-Esprit, qui est l'Esprit même de Christ, l'Esprit de vérité. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. 1 Corinthiens 2, 12. Ici se présente une question très importante, comment pouvons-nous reconnaître l'Esprit? Savoir que c'est bien lui qui nous parle. Jésus nous dit « Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous ». Il faut donc que l'Esprit demeure en nous, pour que nous puissions discerner sa présence. C'est lui-même qui se fera connaître à nous. Aussitôt qu'avec obéissance et foi, nous le laisserons entrer, prendre possession de nous et nous parler de Jésus, il déploiera ses lettres de créance, il nous donnera lui-même la preuve qu'il est l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que l'obéissance est une condition essentielle à l'habitation de l'Esprit en nous. L'obéissance est également la preuve de sa présence. Jésus nous a envoyé l'Esprit pour nous enseigner et nous guider, et toute l'Écriture insiste sur le fait que c'est l'abandon de tout notre être à Dieu qui permet à l'Esprit d'agir en nous. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8, 13, 14. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu en votre corps. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. L'Esprit vient nous montrer quelle est la volonté de Dieu, nous montrer Christ accomplissant cette volonté, et il nous appelle à suivre ses traces dans la voie de l'obéissance. C'est en nous disposant à obéir à Dieu, comme Christ lui obéissait, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit de sa demeure en nous. Il est impossible de connaître un fruit avant de le goûter, il est impossible de connaître la lumière à moins de s'en servir, ou de connaître une personne à moins d'avoir des rapports avec elle, il est impossible aussi de connaître le Saint-Esprit à moins de le posséder et d'être possédé par lui. Vivre selon l'Esprit est le seul moyen de connaître l'Esprit. Le laisser faire son œuvre en nous, le laisser nous apprendre à dépendre de lui, telle est la voie que nous indique le Maître quand il nous dit « Vous le connaissez parce qu'il sera en vous ». Au mon Dieu, le Saint-Esprit, qui est ta vie même, est venu à moi pour être la vie de tout mon être, pour faire de moi ta propriété sans réserve. Enseigne-moi à le reconnaître en moi et à lui obéir. Amen. La parole de Dieu ne suffit pas pour nous faire connaître l'Esprit. Sans doute elle nous parle de lui, mais elle n'a de vie et de réalité pour nous qu'autant que l'Esprit lui-même nous parle. L'Esprit de vérité. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage en moi. Jean 15, 26. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu.